22h, 23h, par où dire,
Pascal Tison.
Dis-moi, par où dire,
par où dire.
C'est dans un désordre épouvantable, parce que vous savez que je fais l'exposition en fin d'année, que je travaille depuis longtemps et que je n'ai jamais rangé mon travail d'une manière à l'officialiser. Jamais.
Et à une fois, j'entends... Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse. Hein.
Ces lieux nous parlent.
Je n'ai jamais rien jeté, donc. Hein? Mais rien. Donc j'avais ça dans des vieilles boîtes, des vieux sacs. Et ici, on a quand même, depuis quelques mois, commencé par archiver tout le travail.
Jean Gluibert, peintre en bâtiment. Exposition au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles jusqu'au 7 janvier. Avec Michel de Vicher, Cécile van der Noot, Véronique Deleu, Chantal d'Assonville, Marc Lacour, Marc Dubois, Antoine Vincentelli et Jean Gluibert. Espace envisagé, outre le Palais des Beaux-Arts, le Belmont-Cours, rue Béliard 51-53, à Bruxelles, livraison 2004. Centre interdiocésain Mézin, rue du Commerce, 70-72, Bruxelles, livraison 2006. Société régionale d'investissement bruxellois, rue de Stassard, 32-26, livraison 1993-1997-2009. Jean Gluibert, peintre en bâtiment, par Thierry Junico. Production Fédération Wallonie Bruxelles, cellule architecture.
Cette exposition comporte plusieurs volets. D'abord, ses propres interventions dans le Palais des Beaux-Arts.
J'aimerais mieux de dire que je glane, que je collecte. Et je ne suis pas très content quand on me dit, ce qui arrive souvent, oui, Jean, il collectionne. Jean, moi, je n'ai aucun souci de collectionner. Hein, je crois que le collectionneur, il veut tel objet dans telle série, il les veut tous. Hein, ce sont des objets que j'ai parfois ramassés. Parfois acheté en brocante, parfois acheté au plus où j'allais assez souvent. J'ai quelques séries que je peux vous montrer rapidement, hein, mais qui sont des objets comme ici. Si je lis rapidement, comme ici, des outils de notre travail, hein, de peintre, d'architecte, de dessinateur, toute une série de gens, dont des pièces anciennes, des pièces vraiment magnifiques, des outils plutôt d'ingénieur que de dessinateur, mais les architectes avaient ça aussi, ce qui permet de tracer avec de l'encre, hein, et en allant contre une lettre, les petits trous permettent de faire point, 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 ou point bas, ou point, point, deux bas, hein, et j'en ai trouvé dans une brocante à Charleroi, une série complète, quoi. Ça, ce sont des objets vraiment de dessin, quoi. Hein. Alors, c'est... Mais l'objet est beau aussi, quoi. Hein? Je trouve que l'objet est magnifique aussi. Ce que j'essaie de marquer, c'est la différence entre la collection et la réunion. De réunir, j'ai beaucoup d'objets, mais ils sont quand même limités en trois zones. Les objets pour dessiner, les objets pour peindre, des pinceaux magnifiques, mais des pinceaux qui servent à des métiers différents. Je ne veux pas non plus que les pinceaux japonais trop beaux, hein? Déjà je ne les aime pas trop, hein? C'est un pinceau... Je vais vous en montrer un.
Jean, en général, se met au service du bâtiment. Il se met à la disposition du bâtiment pour rentrer dedans, pour essayer de le comprendre et pour repérer toutes les potentialités du bâtiment, que ce soit au niveau des matériaux, de la structure, de la matière, de la circulation.
Je vais vous en montrer un où l'explication vient de l'objet. Ça, je les trouve même très laids. Hein, mais ce sont des pinceaux que j'ai achetés aux États-Unis. C'est pour les garagistes. On huile quand ils doivent graisser en dessous des voitures, hein, le pinceau fonctionne, et quand ils ont fini, ils le craquent, ils le jettent. Alors que ce qui est beau dans un pinceau comme ceci, qui est magnifique, c'est de le laver, de l'user, de l'utiliser soi-même. Un stylo, la plume vient à l'utilisation de la personne qui dessine, mais le pinceau aussi, quoi.
Jean Guibert est un peintre avant tout. D'ailleurs, le titre le dit bien, peintre au bâtiment. Et donc la difficulté quand on exposait Jean, c'était justement de dire, chez Jean, tout est dans tout. Une grande black box avec des belles images, puisqu'effectivement ses interventions en sont assez parlantes, mais les mettre en rapport avec tout ce à quoi Jean pense quand il travaille. Et vous verrez sur une grande table des objets très divers, c'est pas d'énervement des outils d'architecte, c'est des maquettes, c'est des morceaux de tissu, c'est un morceau de cuivre coulé, c'est une botte de crayon. Et à chaque fois, je vous invite à faire vous-même le rapport entre les images que vous voyez et les objets qui sont disposés sur cette grande table.
Ce ne sont pas des beaux objets, mais ce sont des objets qui ont été conçus, créés pour faire telle sorte de peinture ou telle sorte de peinture.
On ne peut pas parler de Jean sans parler de sa peinture, mais les deux sont liés et c'est ce qu'on a voulu faire dans ce qu'on a appelé la salle des collectes. Et la salle des collectes, c'est une espèce de tension, un élastique entre la salle des peintures et la salle d'architecture. Et ça se passe à travers un paysage d'étagères dans lequel on voit non pas un cabinet d'amateur, mais toute une série d'objets.
Hein, tout le monde connaît maintenant les marqueurs, hein, les rapidos, tous les dessinateurs des rapidos. Parce que ce sont aussi des rotrings. Et quand vous voyez le nombre de plumes, hein, et l'outil, il fallait prendre la plume, la placer soi-même, mettre de l'angle de Chine. On avait les doigts, les mains, de toute manière, avec beaucoup d'angle de Chine. Mais quand on trace un trait fin, par exemple, bien net sur une surface tout à fait lisse, comme sont des calques ou comme sont les beaux papiers pour faire les plans, hein, c'est un trait comme s'il avait été gravé. Hein, il n'y a pas une petite boule au départ qui est le dépôt de la plume qui touche le papier et puis la ligne vient. Et quand vous l'arrêtez aussi, il y a toujours une goutte, il y a toujours. Donc ce sont vraiment des outils de précision et qui. Je ne sais pas s'ils disparaissent tout à fait, mais qui sont petit à petit remplacés par les ordinateurs.
Je suis une amie de Jean depuis peu de temps, que mon nom c'est Cécile Vandernoot. J'ai réalisé cette biographie, comme on l'a appelé, la sélection biographique avec Véronique Deleuze, sa compagne, qui a fait un travail d'archivage très important ces deux dernières années.
On a commencé avec l'archivage, moi je me suis occupée de l'archivage du travail de Jean. Tout était plus ou moins rangé dans des sacs, mais à gauche, à droite. Donc j'ai classé ces 200 boulots. 200 boulots, Jean a fait au moins 200 travaux qui ne sont pas tous réalisés, mais la moitié est réalisée et ils ont tous pour lui la même importance.
Tout commence en 38, il naît à XL, avenue Émile de Bécaud, l'un de ses ateliers encore aujourd'hui. Il se souvient d'être venu au Palais des Beaux-Arts avec ses parents, voir des expositions. Il a fait une partie de ses études à l'école de Crolly, où il se souvient d'un cours de dessin assez magistral avec une dénommée Madame Maury Martin qui les faisait dessiner aux eaux d'Anvers. Un début d'une pratique, même enfant, où il s'en souvient, ou maintenant même, en tout cas, il la raconte comme un moment très important. Déjà donc, dans les années 50, alors qu'il a une dizaine d'années, il commence à peindre.
Moi, je vis avec Jean depuis 40 ans, je ne sais plus. Mais j'ai connu son boulot, mais j'avais un autre boulot, moi. Mais parce que j'ai découvert, en plus, je dis, mais quand tu as fait tout ça, quand tu as fait tout ça? Parce que Jean, quand il fait un travail, il fait pas mal de recherches. On retrouve 50 feuilles de ces petites recherches, vous voyez, au bout, là. Mais j'ai un moment, j'ai rassemblé tout ça. Il y en avait 100 de ça, 50 de ça, 70 de ça. Et, mais il garde tout dans sa petite table, avec ses crayons, ses petites feuilles. Pas du tout à l'ordinateur. Il recherche et parfois je dis, mais ça y est, c'est bon, c'est bien. Et c'est... Non, il faut qu'il soit là, là, cette forme-là. Il a travaillé toutes les interventions. Et tout à coup, c'est paf, c'est ça. Et ça, c'est toujours assez étonnant. C'est toujours très petit sur papier. Et c'est tout de suite traduit dans la réalité. Donc, il ne passe pas par des stades. Ou alors, c'est des petites maquettes, comme on voit là en papier, mais toutes petites. Il ne passe pas par un autre volume, mais c'est tout de suite, il a... Le sens de l'espace, et bon, ça c'est assez étonnant.
que celui-ci n'est justement pas en bois. En fait, cette courbe par rapport à un thé, où on voit encore Pakistan, on a des pantalons légèrement bouffants qui se resserrent à la cheville. Il y a toutes les tailles ici pour faire les patrons des pantalons qui ont cette forme particulière. Donc ces outils aussi, si je les garde, si j'ai eu envie de les ramasser, de les réunir, sont propres à certains métiers, que ce soit, maintenant je parle de la couture, mais ils sont propres donc aussi à la sculpture éventuellement.
Ah non, il n'arrête pas, du matin au soir, en vacances et partout. Il ne part pas en vacances sans avoir des crayons, des feuilles et des choses. Et... Non, il n'arrête pas. Il n'arrête pas, mais ses objets et ses choses, il regarde partout aussi. Hein. Il ramasse, il regarde. Non, ça, il n'arrête jamais. Ça fait partie de lui, de tout le temps.
Michel de Bichère, votre rencontre avec Jean Guibert.
Moi, j'ai connu Jean Guibert à l'Iselbe en 81 ou 82. On avait monté avec plusieurs artistes, architectes, le groupe qui s'appelait Environnemental. C'était des ateliers qu'on donnait le soir à l'Iselbe, destinés à des étudiants ou des non-professionnels, et qui traitaient de l'intégration d'œuvres d'art dans la ville. Donc on avait, par exemple, proposé avec les étudiants de travailler sur toute la petite ceinture et de travailler comme sur des portes de ville. Et donc, c'est là que j'ai vraiment connu Jean. Je l'avais déjà connu avant, quand j'étais étudiant à Leuven, où on avait organisé une opération qui s'appelait Murmure, qui est une espèce de semaine dans l'urbanisme à Leuven, et qui avait été fait avec les gens du Mass Moving. On a imprimé sur la rue avec le rouleau à fleurs.
Tout mon tiroir ici rempli de plumes particulières, elles sont dedans. Mais la qualité, si vous tracez avec l'un, vous tracez avec l'autre, ça se voit à l'œil nu, quoi.
Et on a fait un premier projet ensemble qui était une palissade devant un magasin que je transformais à New Louise et qui était une palissade rouge et blanche, et on avait simplement suggéré le dessin dans la palissade par l'interruption du trait rouge ou blanc suivant qui touchait le dessin ou pas, et ça faisait comme une espèce de palissade tout à fait cinétique sur toute la largeur de la rue. Ça, c'est vraiment les débuts.
Juste pour s'amuser, hein. Crayon, porte-mine, ça peut ressembler à une collection. Hein.
On se rencontrait après l'Iselbe, au café Le Waterloo, chaussée de Waterloo, ça s'appelait Le Waterloo, où il y avait encore des petits noms en cuivre gravés sur les tables, parce que c'était les tables d'un tel et d'un tel. On a enseigné ensemble quand même pendant près de 17 ans à la Cambre en espace urbain, tout en continuant à faire des projets ensemble à Bruxelles et ailleurs.
Je me suis demandé, Chantal Lassonville, si la figure de Jean Guibert n'est pas centrale à votre démarche et à votre recherche.
Alors, c'est une excellente question, évidemment, puisque il faut rappeler d'abord que cette exposition de Jean Guibert, c'est une exposition pour nous classée dans les expos d'architecture, hein, puisque nous avons un accord avec Beaux-Arts qui nous permet tous les deux ans d'être accueillis ici avec la question de l'architecture, tantôt en communauté flamande, tantôt en communauté française. Et en fait, pour moi, ce qui est tellement étonnant dans le travail de Jean Guibert et qui fait qu'il révèle effectivement le travail de l'architecture, c'est qu'il travaille sur les mêmes questions que les architectes. La lumière, l'espace, le volume, la profondeur. Et ce sont en fait des questions tout à fait identiques entre le plasticien et l'architecte. Et c'est en cela, évidemment, que il a trouvé avec un certain nombre d'architectes, puisqu'on voit dans son travail qu'il y a quand même aussi une récurrence avec certaines complicités avec certains architectes. C'est en ça qu'il a trouvé, je pense, cette forme de possibilité de contribuer à la fabrication de l'architecture, alors qu'il est lui-même simplement un peintre, comme il se définit.
Moi, je suis architecte.
Et votre nom ?
C'est Marc Lacour. Marc Lacour.
Ceci, j'ai trouvé aussi dans une brocante. Hein, c'est un porte-mine pour un dessinateur éventuel, un compas qui en sort, c'est un objet. Hein.
Que ce bâtiment, quand on lisait les textes d'époque, magnifiait qu'on pouvait rentrer par la rue Béliard, on pouvait rentrer en voiture dans son bureau. Donc c'était un bâtiment qui a été conçu, et ce qui était moderne, c'est que la voiture rentrait dans cette cour. De cette cour, on allait à son bureau. Et quand on a fait la rénovation, on a tout fait pour que ce soit l'entrée en piéton. Donc on a démoli les rampes voiture, on a démoli tout ce qui était prévu pour la voiture. On a enlevé le parking dans cette cour. J'espère que c'est encore là. On a refait un plancher métallique d'un seul niveau tout autour, de manière qu'on puisse avoir un espace de rencontre pendant l'heure du midi. Mais voilà, c'est assez étonnant de voir comment en 30-40 ans, quelque chose conçu pour la voiture qui démarre, on n'a plus besoin de la voiture 40 ans plus tard. Les choses sont quand même, dans la vie des immeubles de bureaux, éphémères, hein, comme tout. Donc, ce bâtiment, il a été rénové voilà 10 ans et il est de nouveau vide. Hein.
Ce mur qui est rempli de catadioptres, de peintures métallisées, de tissus, hein, comme on met les bandes de réflexion pour la gendarmerie et autres. Hein. C'est toute une série d'objets trouvés, achetés, ramassés, utilisés. C'est parce que dans mon travail, depuis quelques années, je suis très intéressé par la lumière et la lumière réfléchie. Donc c'est des petits exemples qu'il n'y a pas une manière de réfléchir la lumière.
Le parking transformé en espace pour les piétons.
Je vais travailler d'une certaine manière. Des peintures métallisées, c'est assez difficile d'ailleurs pour le moment aussi parce qu'on ne doit utiliser que des peintures aqueuses à l'eau. Et on dit c'est métallisé. Oui, ça fait un peu argenté, mais ça n'a pas la réflexion de la lumière.
Ah, là, c'est une cage qui utilise le rouge de nouveau. Celle-ci, le vert. Hein. Là-bas, c'est le jaune. Alors, la brique, c'est une brique peinte. Et la partie blanche, c'est là où Jean Glibert a demandé de mettre un enduit D'accord. comme support à sa peinture avec les billes, okay. les billes de verre. Okay. Et donc, il y avait ici un espèce de spot qui tournait, mais très doucement, et qui flashait sur ces grands rectangles. Comme le dit maintenant le monsieur qui nous a laissé rentrer, c'est à 6 heures du soir qu'on aurait dû venir, parce qu'on aurait vu, évidemment, les cages d'escalier et le reflet de toutes ces lumières.
Mais il y a des objets qui ne sont pas faits pour être catadioptres. Un sac de billes, des billes à jouer, et comme elles sont dans un emballage transparent et lumineux lui-même, elles deviennent un catadiope, mais si vous voyez un vieux catadiope comme ceci, en vert, ce ne sont pas des billes, mais ce sont aussi des petites boules. Et ce sont ces liaisons d'un objet à l'autre qui m'intéressent. Quoi. Comme quand je fais un travail dans l'architecture, où une partie se raccroche à une autre partie, une couleur se raccroche à une autre couleur, un matériau se raccroche à un autre matériau.
Les cages d'escalier rondes, on a obtenu des vitrages courbes, en oui. double vitrage. Oui. Oui. Bon, heureusement, c'était dans le budget. Il oui. faut savoir qu'on a reçu, un budget. Hein, à l'époque, de mémoire, c'était 1 250 millions d'euros, de francs belges, pardon. Et on nous a dit... Non, c'est francs belges. Et on nous a dit, le budget, c'est celui-là. Vous faites ce que vous voulez. Il faut que ce bâtiment de bureau fonctionne. Évidemment, dans ce budget, il y a 70% de techniques spéciales et il y a 30% pour un peu... Donc le peu qu'on pouvait faire, nous, c'était les couleurs, les châssis, les types de châssis, les types de vitrages, cette cour intérieure, voilà. Mais on n'a pas fait les comptes de l'entrepreneur toute la journée, du moment qu'il ne touchait pas nos intentions esthétiques et il ne pouvait pas y toucher. Donc il ne devait pas nous dire après, il n'y a plus d'argent ou il n'y a pas de budget. Il devait le faire, il n'avait qu'à enlever quelques radiateurs si on en mettait trop, mais pas les couleurs.
Non, mais ça, c'était AXA, il avait pris cette position.
Oui, oui, ça, c'est un beau team avec Herpin. Ah, oui, oui. Enfin, les gens d'Herpin que je connaissais à cette époque, on a aussi fait le Marina Building là-bas dans la rue Montoy avec eux. Ce sont des gens qui connaissent bien leur métier et qui essayent de bien faire. Ce n'est pas les entrepreneurs, chaque fois quand tu fais moi, chaque fois que tu parles. Non, c'est les gens qui veulent faire quelque chose. Les parents Herpin ont beaucoup d'heures d'art chez eux, donc ils comprennent qu'un artiste, c'est quelque chose qu'on doit, pouvoir utiliser et respecter.
Fait la peinture décorative et monumentale à la Cambre, de 57 à 61.
La partie que j'ai écrite dans cette catalogue ou cette publication, j'ai commencé avec l'aspect du métro.
Je sais pas beaucoup, parce que c'est trop bon. Ça devient trop particulier. Quand je voyage, oui, quand je voyage. Ah, tiens, il y a un marchand de pêche, je vais aller voir.
Léon Steinen fait autorité à l'époque. Il se souvient de l'examen d'entrée et d'une question posée par l'historien de l'art Robert-Louis Delvoye. Comment comparer un frigidaire à une peinture? Et là, il est même raconté que ce qu'il avait appris à l'école de Crowley, c'était pas du par cœur, mais c'était de réfléchir. Et donc, cette réflexion-là entre un frigidaire et une peinture, il l'a trouvée étonnante, mais c'était là qu'il devait se trouver. C'était là que se jouait quelque chose.
Moi, je suis rentré à la Cambre en peinture, pas encore monumentale, hein, qui était dirigée par Paul Delvaux, qui était un grand, grand, grand peintre. Mais je ne suis pas certain qu'on avait des grandes informations sur la question que vous me posez de l'intégration. Hein? Et que c'est à la cambe aussi quand même, parce que je suis rentré jeune, à 18 ans, 19 ans. Il y a toute une série de choses que je savais que j'avais envie d'aller à la cambe. Je savais que j'avais envie de faire soit de l'architecture, soit de la peinture. Il y a eu des fluctuations dues à des questions différentes. Et que le Beauce, par exemple, je ne connaissais pas grand-chose. Dès que vous me parlez d'intégration, c'est une des choses qui, par après, ouvre.
Alors lui, un élève de Paul Delvaux. Mais Paul Delvaux, je ne crois pas qu'il lui a donné son diplôme de fin d'année. Je crois que Paul Delvaux ne comprenait pas. Alors qu'en fait, Jean a gardé une belle admiration pour Paul Delvaux. Parce que je me souviens, le jour où il est décédé, ça l'a quand même fait un choc. C'était quand même... C'était son maître. Enfin, il a quand même un sens de la peinture au sens de peindre. Et il ne peint pas avec n'importe quoi, ni avec n'importe quel outil, ni avec n'importe quelle matière. Quand il dit « j'aimais bien les suivre de temps en temps des cours en restauration en haut », parce qu'il y avait un atelier de restauration d'œuvres d'art au-dessus, c'est quoi un doré, c'est quoi un argenté, c'est quoi... Donc c'est dans sa même logique que le bon outil, la bonne peinture, la bonne matière. On ne fait pas tout avec n'importe quoi. C'est ce qu'on a essayé de faire dans la scénographie de l'expo aussi, avec lui.
À la sortie des études, il entame des recherches couleurs. Il les appelle les circulations couleurs. Ça va l'occuper longtemps.
J'avais vu quelques expositions, mon père était architecte, j'avais... Mais rien par rapport à tout ce qui s'est ouvert en une fois. Quand vous dites intégration, c'est une des choses qui, en peinture, à Lacan, m'intéressait. Déjà, c'était le rapport du peintre et de l'architecture, et de l'environnement, et de l'espace public. Et alors, sans être déjà braqué sur l'idée « je voudrais faire de l'intégration », c'était aussi une atmosphère particulière. Quand j'étais étudiant à Lacan, il y avait 270 étudiants. On se connaissait tous.
Petite anecdote, il numérote les pierres de la maison du peuple, le chef-d'œuvre d'art nouveau de Victor Horta. Alors, c'est pas anodin, en 64, donc il a 26 ans. Et il se retrouve là aujourd'hui à occuper le palais des Beaux-Arts de Victor Horta.
Mes amis, c'était des photographes, des gens qui étaient en céramique chez Caille, mais c'était Caille aussi qui était professeur, des graphistes, hein? Il y avait les architectes, les jeunes architectes qu'on les connaissait. Alors on n'avait pas déjà des grands discours sur l'intégration, mais on savait ce qu'ils faisaient, on savait comment ils travaillaient. On allait très souvent, enfin chaque fin d'année ou chaque trimestre, les aider à faire des maquettes. C'était pas des cours, mais c'était mieux que des cours peut-être. Et voyant les architectes jeunes, on voyait aussi les architectes qui étaient à la camp, hein, qui étaient quand même bourgeois, qui étaient quand même... Steinen était un architecte immense, on entendait leurs noms, on se renseignait un peu plus. Il y avait eu l'Expo 58, hein, qui nous a encore plus réunis, et encore plus.
Il occupe un parking d'un immeuble qui n'a pas encore été réceptionné. Donc au lieu d'occuper une galerie, il monte une exposition personnelle, où il va présenter l'aboutissement de recherches spatiales sur la couleur, sur la circulation couleur, dans ce, avec des matériaux tels que des grands panneaux de bois, mais il travaille avec, par exemple, des bombes, des vernis, des lacs.
Où est le mur? Dans quelle architecture? Dans quelle fonction de l'architecture? Et le travail de peinture?
Il y a des artistes qui ont mis un peu une peinture ou une sculpture dans le métro. Mais Jean Glibert a toujours choisi l'espace. D'abord le métro Mirode, avec toutes les pièces de céramique qu'il a choisies, mais avec une sorte de méthode de le mettre sur les parois. Et quand les gens sont dans le métro, il y a une sorte de mouvement de couleurs qui se mélange dans nos yeux. Et ça, c'est vraiment très important. Et l'autre métro, c'est Boxtal, avec un hauteur très haut. C'est un espace très monumental. Et donc là, il a choisi de seulement utiliser la couleur sur le béton brut, hein, de la construction. Et devant ça, il a mis des éléments métalliques. Et il y a, au commencement de l'ensemble, je pense que 12 qui peut tourner.
Après, j'ai travaillé dans les hôpitaux, j'ai travaillé dans des bâtiments publics. Hein, tous les dans un bâtiment, il y avait 300 bureaux. Les notions couleurs, c'est pas la même chose. Deux mois après, je travaille pour inviter dans une petite maison. C'est pas la même chose.
C'est aussi de montrer que l'art dans le lieu public, c'est très important. Et Jean Guibert est quelqu'un qui est présent, mais qui est aussi absent. Et ce qui est intéressant, au même moment que de cette exposition, il y a une exposition de Christo ici à Bruxelles, où le lieu public, c'est aussi le commencement de tout pour Christo. Mais Christo est toujours présent, on voit. Hein, mais Jean Guibert est complètement différent. Je trouve très intéressant qu'il est, on peut dire, présent, mais absent.
Quand vous écoutez Jean Guibert, la démarche que vous meniez, que vous menez, est-elle en interaction avec la question d'architecture dès le début?
Très vite.
Par exemple, ici au Beaux-Arts, il y avait une exposition en 1952 sur l'art dans les bâtiments, dans l'architecture. Et c'était l'esthétique murale. Et l'esthétique murale, c'était que quand les architectes modernistes faisaient des grands murs, les sculpteurs ou les artistes devaient coller des choses sur les murs. Et il y avait des artistes qui ont dit, mais non, l'architecture, aussi des architectes, mais pas beaucoup, comme Steinen et Eisling à Ostend, qui ont dit, non, l'architecte doit choisir le lieu pour mettre de l'art et pas coller de l'art sur les murs. Et ça a changé très fort fin des années 50, 60, où des artistes recevront des projets qui sont plus intéressants en relation avec l'espace.
Mais Michel de Vesser, pensez-vous que ce qu'on a appelé l'art cinétique ou l'art public de Vasarely et de tous ces gens dans les années 50 a marqué, a été important pour Jean Guibert?
Absolument. Ça, je suis tout à fait persuadé. Il a découvert des gens comme Agam, Vasarely, De Soto, toute cette génération-là. C'est sûr que ça l'a marqué. Mais moi, je me souviens, étant encore étudiant dans les années 70, la galerie Françoise Maillère, près de la Cambre, qui travaillait avec des artistes qui venait de chez Denise René à Paris et tout ça.
Un grand artiste pour moi, Jean Guibert, mais qui est seulement connu à Bruxelles et en Wallonie. Je viens de la Flandre, mais qui est Jean Guibert en Flandre? Mais la raison, c'est qu'il ne fait pas des tableaux qu'on peut vendre dans une galerie à Knokke ou à Bruges. Non, son travail est relié et accroché au bâtiment.
J'ai beaucoup travaillé sur mes relations et les relations de la couleur entre elles. Pas une théorie formelle, hein, mais j'avais lu pas mal de théories de peintres. J'avais quelques notions que je voulais dire, montrer. Je n'arrivais pas à répondre quand des gens demandaient « Mais quelle est votre couleur préférée ?» Et je n'arrive toujours pas. Ça se fait souvent encore, hein, vous dites « Quelle est votre couleur préférée ?» Bon, je crois que nous voyons jamais une couleur. Que vous devez être dans un espace tout à fait particulier, que quand on parle d'une couleur, ce n'est jamais que le contraste que cette couleur provoque avec les couleurs de son environnement, et les couleurs dans leur quantité aussi. Si vous mettez 10 cm d'une couleur sur un mur de 100 mètres carrés, le contraste est tout à fait différent que s'il est égalitaire. Donc j'avais fait une série de dessins en prenant 10 couleurs.
Mon nom est Marc Dubois et je suis architecte et j'ai donné des cours d'architecture à Gand et Bruxelles. Et j'ai créé sur l'architecture et l'art, surtout sur l'architecture. Et j'ai participé à cette publication avec Raymond Ballot sur cette histoire, ce parcours de cet homme formidable comme Jean Guibert.
Je n'étais pas parti sur les couleurs froides et les couleurs chaudes, parce que c'est aussi une théorie particulière. J'étais parti sur les couleurs plutôt claires, les couleurs plutôt foncées, des dessins avec ces couleurs qui se côtoyaient différemment, qui s'interpénétraient, qui se... Et voilà.
Dans ces étagères, on met tous ces objets en rapport avec des projets d'architecture, vous verrez, parfois des projets d'autoroute non réalisés, des petites sculptures, et ce qu'on a voulu, c'est vraiment essayer de montrer ce rapport et cette espèce d'entité que crée son travail peinture et son travail architecture.
Mais beaucoup de dessins, je vous en montrerai quelques-uns. Et un jour, j'ai reçu ceci, qui est une boîte de crayons qui vient d'Angleterre, d'une qualité. Mais quand j'ai vu la boîte, j'ai pas voulu et j'ai pas osé travailler moins avec ces crayons, parce que la boîte telle qu'elle, qui est merveilleuse, hein, la gamme, et en plus, dans ce cas-ci, la qualité.
C'est vraiment les deux pôles de l'exposition entre lesquels toutes ces étagères circulent.
Si je vous parle de la qualité et puis je ne les ai pas utilisées, c'est certain que j'ai eu des crayons de la même qualité que j'ai utilisé. Et ceci est peut-être un des départs de cette envie de cumuler une série de... Et là, maintenant, je pourrais vous montrer...
Et on termine alors la dernière salle, c'est alors ce qu'on a appelé la salle de peinture, on retrouve des recherches, parce qu'en fait c'est vraiment des recherches sans but précis, sans projet précis, qui datent depuis les années 70 jusque dans les années les dernières, vous verrez les petites cartes, c'est 2015, 2016, et dans lesquelles on a aussi retrouvé, dans cette salle, une ancienne vidéo d'une émission de Céline Sasson qui s'appelait à l'époque Le Monde des Formes en 71 ou 72, et la première fois que Jean avait exposé dans un espace qui n'était pas un espace d'exposition, évidemment, c'était un parking.
Mais ici sont de très belles boîtes aussi, mais dans tous les objets, pour finir.
Dans les années 70, toute une série de belles expositions à l'initiative de René Léonard. En 73, un moment aussi très important, suite au prix de la jeune sculpture qu'il remporte, il y a Jean Coquelet, donc, qui était le conservateur du musée d'Ixelles, qui l'invite à participer à une exposition qui était déjà en cours de montage. Il rejoint donc 4 autres artistes et cette exposition s'intitule « 5 sculpteurs, 5 matières » et lui pose vraiment la couleur comme un matériau. Ça, c'est un moment très important.
Si un jour vous avez besoin de lancer, on ne sait plus où aller les acheter. Et ici, vous avez la qualité, la souplesse, la longueur, la tâche, le nœud, les épaisseurs. Ce n'est pas par rapport au lacet ni à l'utilité, je suis en train de parler des lacets, mais ça, c'est un tableau, c'est un graphisme, c'est un dessin.
C'est des années où il va enseigner à la Cambre, tout d'abord dans l'atelier Vitrail.
Disons un objet en verre clair, mais il a de la couleur, parce que sa lumière c'est de la couleur, et les reflets de son environnement se marquent dans l'objet, et qu'il soit en verre ou en matière plastique, ou la couleur, elle est là. Des petits répertoires. Oui, non, ici... C'est tout à fait autre chose. Mais... Alors, Glibert, où sont-ils? Ça, ce n'est plus couleur, mais c'était objet. J'ai parlé peinture, puis j'ai parlé sculpture, la forme. Donc, toute une série de choses, ce sont tous des plombs pour la pêche, mais qui ont des formes particulières. Ces petits objets sont parfois monumentaux.
Vers l'atelier espaces urbains et ruraux, qui aujourd'hui s'intitule... Espace urbain.
L'atelier d'espace urbain était un atelier transversal, si tu veux, pas lié à une technique, ou puisque c'était pas un atelier de gravure, ouais, mais on faisait de la vidéo, de la sérigraphie, des interventions, des performances. On a fait avec les étudiants des performances sonores, physiques dans les métros. Donc c'était un peu toutes les. Mais les sensibiliser à ce que c'est. Dans le milieu dans lequel ils doivent travailler, enfin, c'est la grande leçon de quelqu'un comme Jean. Et d'ailleurs, quand on voit ces étudiants qui sont sortis, des Christophe Ternine, des Ivo Provo, des Emilio, etc., c'est des gens qui s'assument et qui n'ont pas peur de le faire. Et ça, je trouve intéressant.
De commencer petit à petit à travailler avec des architectes. Et donc, on va dire, tout premier grand projet dans l'espace urbain souterrain. À Bruxelles, dans le métro, à Merode, sur deux niveaux. interventions à Cénis, des interventions à la Bourse, des interventions à Liège, au musée en plein air, interventions suite à la rencontre avec Michel de Vichère, qui est donc l'un des commissaires de l'exposition, ce qui participe dans les années 80 aux grands débats, conférences que Lisel organise sur la place de l'art et ce qu'ils appellent l'art environnemental, donc l'art qui rentre dans un contexte.
Ceci, j'ai trouvé, je n'avais jamais vu, et je n'en ai plus revu, mais ça a dû exister. Ce sont des porte-mines avec une mine plate et rectangulaire. Avant qu'on ait des porte-mines, comme les 05, les 07, des mines très très fines, avec lesquelles dessinent beaucoup d'architectes, si vous prenez une mine, vous tracez une ligne, mais la ligne, elle est plus grosse à la fin qu'au début, parce que la mine s'use. Et si vous utilisez le rectangle verticalement, l'épaisseur de la mine fait un trait régulier. Bel outil, quoi. Hein? Celui-ci, mais n'est justement pas en bois.
Devant le centre Mézin, nous sommes dans la rue du Commerce à Bruxelles. C'est un bâtiment qui est construit sur une parcelle qui appartenait à l'organisation de l'enseignement catholique, donc c'était pour mettre des bureaux, des salles de conférences et des salles de réunion. Donc c'est un bâtiment assez simple, je dirais, dans sa conception, dans le sens où il n'y a pas de poutres en béton, c'est une dalle en béton toute plate, épaisse, et ce sont des colonnes en acier remplies de béton pour le feu, et le reste c'est du vitrage. Donc il y a trois matériaux, il y a le béton, le vitrage et le métal. On a travaillé avec Jean sur la distribution de nouveau, de haut en bas. Et là, Jean, de nouveau, dans sa recherche du reflet, n'a pas peint en fluo les tôles, il est allé peindre derrière les tôles. Et puis, il a mis des éclairages derrière les tôles, ce qui donne le côté rosé. C'est la réflexion, de nouveau, de ce rose sur le béton. Et c'est tout ce petit jeu subtil d'où vient la couleur, on ne la voit pas, mais elle est là. Et alors, il a travaillé, cette fois-ci, le plafond également, tout ce qui est entré, on va le voir jusqu'au bout. Là, il a travaillé son fluo de manière à donner une direction jusqu'au fond du bâtiment. Et cette répétition de couleurs fluo, elle est associée au noyau sanitaire qui est associé au noyau d'escalier d'ascenseur, parce que c'est un plateau complètement vide, il n'y a pas de cloison, c'est un open space, et il y a juste le noyau qui traverse les étages.
Quand le boulot d'intégration fonctionne, je crois que c'est quand des gens de disciplines différentes ont eu envie de réfléchir et de travailler ensemble, quelle est la solution, et pas uniquement dans des obligations.
Le bâtiment Béliard, il a remporté le MIPIM Award du meilleur bâtiment rénové sur la planète à Cannes en 2007. Et celui-ci remportait le prix de la ville de Bruxelles, le prix d'architecture contemporaine, un an avant ou un an après. Voilà, mais bon, Cannes, c'est une porte sur la lumière, hein.
C'est Antoine Vincentelli. On voit donc des grandes lignes noires brillantes, donc une trame régulière, noire, qui se balade à travers tout le bâtiment.
Je ne sais pas combien il y a d'architectes en Belgique, hein, des milliers. Un jour j'ai dit 7000, on m'a dit, mais genre, il y en a bien plus que 10 000 maintenant. Des artistes, il y en a énormément, énormément dans les répertoires d'artistes. Des clients aussi. Et clients privés et dans les politiques. Il y en a qui ont plus de notions de l'intérêt de l'architecture, de l'espace. Il y a tout ça. Alors, dit qu'il faut un de chaque. Je crois plutôt quand même qu'il faut arriver à réunir dans toutes ces catégories ceux qui veulent vraiment faire quelque chose et écouter les autres et réfléchir à ce que chacun a peu, pas que réfléchir, hein, et que c'est comme ça que ça peut vraiment être la réponse à qu'est-ce que l'intégration.
Je trouve que la plus belle manière de résumer l'enseignement de Jean Libert, c'est une phrase de Jo de là-haut, qui dit « Je n'ai jamais voulu enseigner la peinture à mes étudiants, j'ai simplement voulu leur apprendre à assumer leurs conditions de peintre. »
Je pense que ce serait bien qu'on alors on va monter dans la passerelle justement. C'est une nouvelle manière aussi de redécouvrir la peinture de Jean, parce qu'on est à un autre niveau, puis il y a les reflets qui se font d'une autre manière. Et tout ça, on le découvre aussi une fois que ça se construit. C'est ça qui est amusant aussi, c'est que d'un coup, la dimension de sa peinture prend un autre aspect dès que le chantier avance.
Et je trouve ça magnifique. C'est...
Vous le redites ?
Je n'ai jamais voulu enseigner la peinture à mes étudiants. J'ai simplement voulu leur apprendre à assumer leurs conditions de peintre.
Jean, c'est quand même surprenant. Il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot. Il y a dans tout le boulot du boulot intéressant. Et il n'y a rien. Il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de truc. Hein, et ils se sont dit, on va penser à faire quelque chose.
9 rectangles x 2. Et certains de ces rectangles sont encore sous-divisés et dans lesquels il y a une série de couleurs différentes. Plus dans les teintes jaunes, avec toujours ces lignes noires brillantes, et qui vont, elles, descendre à travers le bâtiment. Et on découvre alors un jeu de reflets de cette couleur jaune qui va donc se refléter sur les murs qui sont peints en blanc en face. On traverse la couleur à ce moment-là, quand on traverse le couloir jaune. Nous sommes architectes. Ça nous permet d'avoir un rapport à l'architecture qui est très différent, d'avoir beaucoup de recul par rapport à ce que c'est que l'architecture. Jean a une sorte de présence aussi physique, mais dans sa manière même de parler, et le temps qu'il met à réaliser des choses, qui nous permet aussi à nous de reprendre le temps de la réflexion avec lui. C'est-à-dire qu'il y a un rythme qui s'impose à nous, qui est différent, et qui pour nous est assez jouissif, évidemment. Parce qu'on redécouvre, du coup, notre métier différemment.
Il se fait qu'il y a 5 architectes qui sont associés. Et moi, j'ai travaillé plusieurs fois avec Michel Devéchet, mais on n'est pas ni associés, ni obligatoires à travailler ensemble. Donc de ça, il ne m'en avait pas parlé. Et un jour, Michel me téléphone, j'étais en vacances, il dit « Jean, je voudrais te voir, est-ce que ça t'intéresserait de travailler ?» sur un mur de je ne sais plus combien de mètres, mais important, hein, 8 mètres de haut, 30 mètres, sur un bâtiment. Je ne comprends pas pourquoi tu me poses la question. Hein, si ça m'intéresserait, c'est sûr que ça m'intéresse. Quoi. C'est... Et il me dit même à ce moment-là, oui, j'ai pensé peut-être, tu sais, tu as fait une série de travaux avec des camouflets.
Souvent, Jean vient avec une grande farde à trois, dans laquelle il y a une multitude de différentes idées, de différentes visions, mais qui peut aller du tout au tout. Et donc il se laisse, je pense, cette liberté-là de nous montrer par où il est passé lui-même pour pouvoir sans doute avoir la réaction de notre part et pour pouvoir avoir une base de discussion et de ressenti entre un artiste et des architectes qui forment une équipe complète.
Dans certains de mes travaux, je fais beaucoup de projets parce que ça m'intéresse de faire des projets. Et parfois, j'ai un projet qui est peut-être bien, ou j'en ai deux qui sont peut-être bien, et je continue. Et je continue en pensant à des réflexions différentes par rapport au bâtiment. Hein, après, c'est peut-être pas assez coloré, c'est peut-être pas assez vif, c'est peut-être pas assez au bon endroit, c'est peut-être... Il faut aussi vous en montrer l'un ou l'autre, parce que maintenant qu'on archive, il y a un projet... C'était un long couloir avec des escaliers, en fait, une série de choses hein, qui se traduisait par une immense tôle peinte.
Souvent, il vient avec beaucoup de documents, ce qui nous permet vraiment d'avoir ces discussions. Et alors, il lui arrive de venir en réunion aussi avec des maquettes, mais c'est jamais une seule maquette. Donc, si c'est des maquettes, c'est plutôt 3 ou 4.
Son travail a relié et accroché au bâtiment. Et pour moi, ça, c'est vraiment un aspect formidable parce que c'est pas facile de travailler comme ça et on peut pas gagner avec vendre des tableaux un peu partout. Et donc, c'est aussi la raison que quand on peut vendre un tableau à un musée Paris ou un musée Québec, là, c'est un grand artiste. Mais on peut pas vendre le viaduc à Gare du Midi à Paris. Hein. Donc, y a beaucoup de gens, il faut demander combien de milliers de gens passent chaque jour. Mais heureusement qu'ils ne regardent pas toujours en haut parce que ça donnait beaucoup plus d'accidents. Mais quand on se promène en piéton, on dit, mec, les couleurs, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, ça, c'est la grande intelligence de Jean, d'être très discret aussi comme personne, mais on voit très bien cette grande sensibilité dans cette exposition quand on voit les objets qu'il a collectionné. C'est pas seulement des œuvres d'art, ce sont des choses qu'il retrouve dans la vie, des crayons, des catalogues de couleurs. Il faut aller voir cette exposition pour comprendre comment il relie la vie, le monde avec son travail. Et pas pour taper fort qu'il faut voir tout le monde que je suis un artiste. Non, la discrétion, je pense que c'est de l'artiste avec la plus grande discrétion en Belgique, je pense.
Et rappelez-moi votre nom.
Mon nom est Marc Dubois et je suis architecte et j'ai donné des cours d'architecture à Gand et Bruxelles.
Devant le maître de l'ouvrage, nous sommes toujours présents. Et le travail de Jean est toujours expliqué à travers le projet qu'on présente. Parce que c'est pas un projet de Jean qu'on présente, c'est un projet global. Et donc, nous parlons de la manière dont les circulations sont effectuées, parce que le maître d'ouvrage est sensible aussi à comment est-ce que son bâtiment va fonctionner. On parle d'architecture, de volumétrie, mais on englobe là-dedans le travail de Jean tout naturellement. Et du coup, Jean peut, dans cette discussion-là, tout à fait prendre la parole, soit au début, soit à la fin, comme un membre de l'équipe à part entière.
Oui, on vient à lui. On est venu à lui, et ensuite il a fait une exposition au musée d'Ixelles, je ne me souviens plus de l'année, de dessin. Et ce sont des architectes qui sont venus, et puis c'est des architectes qui viennent, et Jean travaille, mais c'est toujours des liens d'amitié. Des rencontres et des je crois qu'il n'a aucun problème avec tous ces architectes, mais c'est devenu des amis, c'est devenu... Ils aiment travailler avec Jean, je pense. Ils aiment comme il travaille, comme il est. Ça, c'est clair. Jean est quelqu'un de très calme. Hein, et qui,
Il y a souvent aussi des doutes qui peuvent survenir de mon côté, du côté de Michel, du côté d'autres collaborateurs, d'autres associés, mais aussi, du coup, chez lui.
Non, ne lui fait pas la démarche hein, de... Non, non, il est là, il est content. Et que ce soit un grand projet ou un petit projet, pour lui, ça a exactement la même valeur. À la limite, que ce soit réalisé ou pas, parfois. On le voit d'ailleurs ici, dans les petites choses ou les grandes choses. Pour lui, il ne met pas plus en valeur quelque chose de plus grand ou de plus important. Non, il le fait avec la même passion. C'est certain.
Il va développer des doutes, peut-être, parce que nous en avons développé, etc. Mais c'est là, sans doute, la richesse qui mène, à un moment donné, à une prise de décision, mais qui est faite de longues discussions. Et oui, il y a certainement beaucoup de réunions, oui.
Jean, quand il travaille avec des architectes, il aime être au départ. C'est-à-dire, il ne veut pas, c'est pas Jean, il fait pas, on lui demande pas, viens faire un mur, ici j'ai un problème, il faut mettre un peu de couleur. Non, il c'est aussi des dialogues avec les architectes, beaucoup, beaucoup. Et puis il fait son travail, pour lui c'est ce qu'il préfère.
Et rappelez-moi votre nom.
Véronique Deleu, je suis l'épouse de Jean en fait. Il respecte l'architecture et essaye de le remettre en valeur, en fait. Il veut surtout pas casser ça. Bon, ici, il souligne les colonnes, il souligne tout le mur du fond, les poutres, la même chose avec l'intervention qui est dans la cour. Hein. Parce que plusieurs... Il y en a quelqu'un qui me dit, mais il a changé les vitres. Je dis, non, il n'a rien changé, il ne touche pas à l'architecture. Enfin, si, il touche, mais il ne touche pas. Là, ici, là, il a trop de respect pour cette architecture d'Ortaille de... Et je crois qu'il essaye de réagir en fonction.
Il n'a pas un grand projet à Charleroi ?
Si, il fait le ring, tout le ring de Charleroi.
Son dernier projet à Charleroi, le ring, dont j'étais voir les premiers morceaux, ça se fait avec le bureau réservoir A. En fait, la ville profite de la rénovation du ring de Charleroi, animal bizarre au milieu de la ville, mais qu'on ne peut pas démolir. En tout cas, il n'y a pas de solution pour le moment, donc ils ont décidé de le rénover. Et en particulier, tous les nœuds entre les tabliers et les poteaux très défectueux. Et donc, ils renforcent ces nœuds. C'est une manière aussi, à ce moment-là, d'accentuer quelles sont les jonctions et les intersections. Et Jean travaille alors avec de la couleur, mais pour rendre le viaduc plus aérien que ce qu'il est. Donc, il travaille finalement que les sous-faces. Et en travaillant avec une autre couleur pour les poteaux, pour justement les fondre, ne pas les accentuer par rapport au tablier. Et ces interventions colorées n'interviennent que, justement, aux jonctions, de manière à ce qu'ils deviennent des repères pour la ville.
Jean Glibert, peintre en bâtiment. Exposition au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles jusqu'au 7 janvier.
À vous écouter, Michel de Vichère, la question du mouvement est importante pour Jean Glibert.
C'est aussi sa passion pour tout ce qui est signalétique. Il y a un côté mouvement dans son travail.
Jean Glibert, peintre en bâtiment. Exposition au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles jusqu'au 7 janvier. Avec Michel de Vichère, Cécile van der Noot, Véronique Deleu, Chantal d'Assonville, Marc Lacour, Marc Dubois, Antoine Vincentelli et Jean Glibert.
Les tôles mises en place tournent comme ces enseignes de coiffeurs dans le temps et créent vraiment un mouvement.
L'espace envisagé, outre le Palais des Beaux-Arts, le Belmont-Cour, rue Béliard 51-53, à Bruxelles, livraison 2004, Centre interdiocésain Mézin, rue du Commerce, 70-72, Bruxelles, livraison 2006. Société régionale d'investissement bruxellois, rue de Stassard, 32-26, livraison 1993-1997-2009. Jean Glibert, peintre en bâtiment, par Thierry Genico. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.
Alors, bonne soirée à tous. Cette nuit sera nuageuse avec des minima de 6 à 9 degrés. Un ciel nuageux qui laissera quand même encore filtrer des éclaircies demain matin avant l'arrivée d'une zone de pluie demain en cours de journée à partir du littoral. À l'approche de cette zone de pluie, le vent va se renforcer et en fin de journée, on attend des rafales jusqu'à 60 km à l'heure. Les températures seront douces ce samedi. On attend de 11 à 15, voire localement 16 degrés possibles. La zone de pluie terminera son passage sur le pays dans la nuit de samedi à dimanche. À l'arrière, on retrouvera un ciel de traîne alternant éclaircies, passages nuageux et averses. Le vent reste soutenu mais tourne au nord-ouest, c'est de l'air plus frais qui arrive chez nous. Et dimanche, on ne dépassera plus 5 à localement 10 degrés.
23h. Cette fois, c'est officiel. La justice espagnole a bien lancé un mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont et quatre de ses anciens ministres arrivés avec lui lundi à Bruxelles. Carles Puigdemont qui a accordé une interview exclusive à la RTBF. Il se dit notamment prêt à collaborer avec la justice belge. Par contre, il dénonce la politisation de la justice espagnole. C'est la nouvelle drogue à la mode chez les jeunes, le protoxyde d'azote, un nom barbare pour désigner le gaz hilarant. Si les effets à long terme ne sont pas connus, il y a quand même des risques. L'arrestation au Maroc d'un homme soupçonné par la Belgique d'être impliqué dans un dossier de terrorisme. Théo Franken annonce le retrait de son permis de séjour. En football, le Standard devra encore patienter avant de se rapprocher du top 6. Les Liégeois ont été battus 1-0 à la Gantoise. Franck Ruel, bonsoir. L'Espagne lance un mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont et les quatre ministres catalans arrivés en Belgique lundi et qui ont refusé de comparaître hier à Madrid. Ils sont poursuivis pour rébellion, sédition, détournement de fonds publics et désobéissance à l'autorité. La justice espagnole rejette la demande de Carles Puigdemont de déposer par vidéoconférence. Le parquet fédéral belge a confirmé la réception du mandat d'arrêt. On va l'étudier, puis il sera donné à un juge d'instruction. Déclare ce soir le parquet. Alors soit Carles Puigdemont accepte le mandat d'arrêt, il sera dès lors très vite remis aux autorités espagnoles, soit il refuse, ce qui semble le scénario le plus probable. Dans ce cas, précise le ministre de la Justice dans un communiqué, la procédure judiciaire prendra maximum 90 jours, plus 10 jours pour une éventuelle remise à l'Espagne. Carles Puigdemont qui a choisi la RTBF pour une première interview exclusive. Alors maintenant que ce mandat d'arrêt a été délivré, que va faire l'ex-président catalan? Écoutez sa réponse.
Je ne vais pas fuir de la justice, je vais aller à la justice, mais à la vraie justice. Donc je ne vais pas échapper, je suis ici et j'ai dit à mes avocats d'exprimer à la justice belge que je suis complètement disposé à collaborer.
Donc quand vous dites la vraie justice, c'est la justice belge, mais pas la justice espagnole que vous considérez comme politisée aujourd'hui?
Et bien évidemment qu'elle est politisée, parce que vous devez remarquer qu'il y a à moins de 24 heures, mes anciens collègues ont été convoqués à Madrid. Et l'avocat a eu uniquement 24 heures aussi pour étudier la demande de procureur général. Donc il n'y a pas de garantie. Aujourd'hui, l'avocat de l'ancien membre du cabinet a dénoncé de maltraitement dans le transfert à la prison. Ils ne sont pas les garanties pour avoir une sentence juste, indépendante, qui puisse échapper à cette énorme pression, à cette énorme influence de la politique sur le pouvoir judiciaire en Espagne.
Carles Puigdemont, interrogé par Quentin Werlop et Julie Morel, il pointe donc le manque d'indépendance de la justice espagnole. Nicolas Willems, pour le président destitué de Catalogne, c'est Madrid qui est responsable de la crise.
Oui, exactement. Carles Puigdemont critique, je cite, la politique barbare menée par le gouvernement espagnol de Mariano Rajoy. Il parle d'acharnement judiciaire et de violence policière. Il se dit choqué par la mise en détention de 8 membres du gouvernement catalan. Le président destitué de Catalogne refuse de parler de fuite à Bruxelles. Il explique son départ par une volonté d'aider ses amis restés en Catalogne. Il souhaite internationaliser la crise catalane depuis la capitale de l'Europe. Il affirme également qu'il n'a pas eu de contact à Bruxelles avec des responsables européens ni avec des responsables belges. Il reste néanmoins très flou sur ses relations avec des responsables de l'ANVA, dont Bart De Wever.
Alors Nicolas, est-ce qu'on en sait plus sur ce que compte faire l'ex-président catalan ?
Oui, alors il veut se présenter aux élections régionales en Catalogne le 21 décembre prochain. Son objectif est d'utiliser ce scrutin pour insister sur le discours indépendantiste catalan. Il est prêt à mener campagne depuis l'étranger et pourquoi pas depuis la Belgique.
Les explications de Nicolas Willems. C'est une nouvelle drogue à la mode auprès des jeunes, une drogue légale, le gaz hilarant, une substance qui provoque une euphorie pendant quelques minutes. Les gardiens de la paix bruxellois retrouvent de plus en plus de capsules laissées à l'abandon dans les rues. Sarah Magnette, vous nous expliquez comment ça fonctionne.
Les consommateurs utilisent en fait des capsules de protoxyde d'azote, qu'on appelle aussi gaz hilarant. Ils achètent par exemple des siphons à crème chantilly qui contiennent cette substance. Donc ces capsules, ils les trouvent très facilement, soit dans des grandes surfaces, soit sur des sites spécialisés. Ils introduisent ensuite le gaz dans des ballons gonflables pour le détendre et puis l'ingurgitent.
Alors Sarah, est-ce qu'on peut parler du début d'un phénomène ?
C'est un peu plus nuancé que ça. Peu d'études existent sur le sujet. Le nombre de consommateurs reste très flou. Une capsule trouvée ne veut pas forcément dire qu'une seule personne l'a utilisée. Les associations ont tout de même réussi à identifier un certain public. Jérôme Poulain est formateur à la SBL Transit, un centre d'accueil pour usagers de drogue.
Ce sont des consommations qui sont assez ciblées sur un public jeune, des jeunes usagers, qui vont consommer généralement ce produit-là dans une optique plutôt expérimentale, dans le but de tester des limites. Ce sont rarement des produits qui vont conduire à une toxicomanie, d'assuétude ou de réelle dépendance.
La SBL rappelle malgré tout que toute consommation de drogue entraîne des risques. Par exemple, le gaz hilarant est inflammable, il peut donc être particulièrement dangereux en milieu fermé. La drogue rend aussi la personne étourdie et qui risque de chuter.
Merci Sarah, et on précise que les effets de ce gaz sur le long terme ne sont pas connus pour le moment. L'hôpital de Chimay manque de médecins, l'information n'est pas neuve, mais elle inquiète de plus en plus les habitants de la région. Jusqu'ici, des confrères Carolo viennent donner un coup de main, mais cette situation ne peut pas durer éternellement. Certains services de gardes ne peuvent plus être assurés. Les explications de François Némette.
Près de 40 médecins Carolo de l'ISPPC partagent désormais leur temps de travail entre Charleroi et Chimay, une nécessité pour la survie du centre de santé des Fagnes de Chimay. Jean-Paul Levent, le directeur.
Ça, je suis certain que nous ne pourrions assumer nous-mêmes à moyen et à long terme les gardes nécessaires à l'agrément. Donc nous avons besoin de cette collaboration avec l'ISPPC.
Cet accord entre les deux hôpitaux datant de 2006 a toujours bien été respecté.
L'ISPPC a toujours répondu à notre besoin en médecins, en renfort, en garde, et on se réjouit vraiment de cette collaboration qui a été toujours sans faille au rythme de nos besoins.
Mais toujours insuffisant, la situation au sein de l'hôpital est réellement complexe, nous confirment certains médecins. Selon eux, seule une fusion pourrait assurer un bon fonctionnement, mais la direction botte en touche.
Jusqu'ici, le conseil d'administration ne s'est pas prononcé pour une fusion. Par contre, c'est évidemment la réflexion qui est en cours aujourd'hui et pas une décision, c'est évidemment de se rapprocher des grandes structures Carolo.
Le cabinet d'Alda Gréoli, ministre de la Santé Wallonne, a demandé des explications. Une réunion se tiendra ce lundi.
François Némette avec Sébastien Giron. Chris Peters en visite à Liège ce matin, plus précisément au banc d'épreuve des armes à feu. Une visite qui avait des allures d'inspection. Le plus gros dépôt d'armes du pays était dans le collimateur du ministre depuis la diffusion d'un reportage de VTM. Un journaliste de la chaîne privée flamande avait pu se balader sans problème et sans autorisation sur le site. Depuis, la sécurité a été renforcée, ce qui semble satisfaire Chris Peters. Il en a profité pour annoncer une modernisation du bâtiment. L'arrestation au Maroc d'un homme soupçonné par la Belgique d'être impliqué dans un dossier de terrorisme. Mohamed Saouti était recherché depuis plusieurs mois. Il est soupçonné d'avoir planifié des attentats. Il est lié aussi à la découverte d'une cache d'armes à Anderlecht. La Belgique va donc demander son extradition, une requête qui a peu de chances d'aboutir. Saouti est marocain, mais il bénéficiait d'un permis de séjour chez nous. Un permis qui va lui être retiré, annonce Théo Franken.
Dans le passé, c'était impossible de retirer sa carte de séjour parce qu'il était venu en Belgique avant le 12 ans. Maintenant, depuis quelques mois, c'est possible. On a changé la loi. Ça veut dire que maintenant, je peux retirer la carte de monsieur et je vais le faire. L'administration va le faire, absolument. Ça va prendre quelques mois. Mais bon, maintenant, il est en prison au Maroc, alors il ne va pas retourner en Belgique non plus. Conséquence, c'est clair qu'il ne peut plus entrer dans la zone Schengen, dans l'Union européenne. Il n'a plus le bienvenu en Europe.
Le secrétaire d'État à l'asile et à la migration avec nos collègues de la VRT. En France, il y aura bien un deuxième procès Mera. Le parquet a fait appel de la décision rendue hier par la Cour d'assises spéciale de Paris. Elle a condamné le frère de Mohamed Mera à 20 ans de prison pour association de malfaiteurs. Par contre, il n'a pas été reconnu complice des 7 assassinats commis par son frère Mohamed en 2012. Donald Trump a quitté Washington. Le président américain se lance dans une longue tournée asiatique aux 5 pays différents visités en 11 jours. Le voyage sera dominé par les questions économiques et surtout par la crise nucléaire avec la Corée du Nord. Daniel Fontaine, le voyage commence par une escale à Hawaï.
Hawaï, État américain dans le Pacifique, Donald Trump y visite la base navale de Pearl Harbor. Il se rendra ensuite au Japon, en Corée du Sud, en Chine, au Vietnam et aux Philippines. Nous allons parler d'échanges commerciaux, a-t-il dit avant son départ, et nous allons parler bien sûr de la Corée du Nord. Sur le plan commercial, le président américain avait désarçonné ses partenaires asiatiques en se retirant de l'accord de libre-échange Asie-Pacifique. Il espère nouer à présent des accords bilatéraux. L'étape chinoise sera cruciale. Donald Trump a souvent dénoncé l'excédent commercial chinois. Il rencontrera son homologue Xi Jinping, tout juste reconduit à la tête du pays. Le président américain tentera surtout de convaincre la Chine d'en faire plus pour isoler le régime nord-coréen. Mais il devra aussi rassurer les pays qui se sentent menacés par le programme nucléaire et balistique de Kim Jong-un, Corée du Sud et Japon en tête.
Donald Trump, par ailleurs démenti par un rapport gouvernemental, oui, le rythme du changement climatique mondial est selon toute vraisemblance imputable à l'activité humaine. Pour rappel, le président américain a souvent remis en question la théorie du changement climatique, qu'il a notamment présentée comme une invention des Chinois pour nuire à la compétitivité des entreprises américaines. Et puis, voilà qui a réjoui les détracteurs du président, un employé de Twitter qui prestait son dernier jour de travail, en a profité pour réduire Donald Trump au silence, du moins pendant quelques minutes. Il a désactivé le compte présidentiel. Il a fallu 11 minutes pour s'en rendre compte et le rétablir, ce dont a aussitôt profité Donald Trump pour dénoncer un employé voyou. On passe au sport en football. La belle série du Standard est interrompue. En ouverture de la 14e journée de championnat, les Liégeois se sont inclinés 1-0 à la Gantoise. Éric Libois.
À la porte du top 6, le Standard est resté sur le seuil. Une défaite qui brise la marche en avant des Liégeois. Les hommes de Sapinto ont eu les occasions, mais ont pêché dans la finition. Orlando Sa avant la pause, Carlinos et Mpoku deux fois après. Le Standard marque toujours aussi difficilement en déplacement. En face, la Gantoise avait placé la rencontre sur le mode des duels. Grosse entrée en matière des Buffalo. Puis, le seul but du match, au moment où le Standard était bien en place, en début de deuxième mi-temps, erreur de la défense liégeoise et but de l'Ukraine. Yaremchuk, pour le reste totalement invisible. La Gantoise sous Van der Hag poursuit sa lente remontée au classement. Les Standards doivent tirer les leçons. Pour décrocher ses play-offs 1, il devra être plus efficace.
Le football toujours, voilà qui va réjouir ses nombreux supporters. Radja Nainggolan est de retour. Il fait partie de la sélection communiquée par Roberto Martinez pour les matchs amicaux face au Mexique et au Japon. Le ninja n'avait pas été repris lors des deux derniers rassemblements des Diables. Deux autres retours aussi dans la liste, ceux d'Anan Januzaj et de Laurent Depoitre. Avant de terminer ce journal, un fait divers qui relève du film d'action. Ça se passe au Mexique. Le chef d'un cartel a été assassiné sur la table d'opération alors qu'il subissait une intervention de chirurgie esthétique pour changer de visage et effacer ses empreintes digitales. Des hommes armés ont fait irruption dans la clinique et ont abattu au total 4 personnes. Jesús El Kalimba Martín était à la tête d'une bande qui siphonne les oléoducs pour revendre le carburant, une activité risquée mais lucrative. Depuis 2010, le montant des quantités volées a été estimé à près de 2,5 milliards de dollars. Fin de ce journal. À toutes et à tous, très belle fin de soirée. Et très belle nuit.